Bonjour à tous, merci d'être avec nous cet après-midi. On va s'intéresser au mythe de Gilgamesh. Et pour s'intéresser à ce mythe, nous avons avec nous le bonheur d'avoir Brigitte Lyon, qui est professeure des universités Histoire, Civilisation, Archéologie et Art des mondes anciens et médiévaux, et qui est également professeure à l'université François Rabelais de Tours depuis 2008. Et nous, sur la table, nous avons un de ses ouvrages qui s'appelle Histoire de défrichement. Donc voilà, elle va nous parler de Gilgamesh. Un petit exposé, puis après on pourra discuter tous ensemble.
Juste une chose, le bouquin c'est Histoire de déchiffrement.
De déchiffrement.
Mais comme il y a du développement durable.
Oui, pardon.
On programme tout même.
C'est table ronde sur l'écologie. C'est
voilà. On trouve tout à Épinal. Alors je vais remercier d'abord les organisateurs de m'avoir invité, en particulier Stéphanie Micot et Madame Marie-Charlotte Delmas, c'est elle qui a refilé mon nom, c'est à cause d'elle que je suis là. Et je suis très heureuse d'être à Épinal, pour moi c'est une première fois, et pour Épinal et pour les Imaginales. Et puis merci à vous d'être venus.
Ouais, on va peut-être alors, juste rapprocher un petit peu le micro, qu'on vous entende
oui,
bien.
Oui, parce que je suis prof mais j'ai pas de voix, ça a toujours été comme ça. Alors, donc on m'a demandé de vous parler du mythe de Gilgamesh. Donc, je vais vous raconter des choses. Et puis, comme il paraît que ça s'appelle une conférence débat, je vous demanderai aussi si vous avez des questions après de ne pas hésiter. Alors, je dirais qu'au sens strict, on a tendance peut-être plutôt, nous, universitaires, à réserver le terme de mythe à des récits qui ne mettent en scène que les dieux entre eux, ça c'est un peu une convention. Et pour Gilgamesh, alors on ne parlerait pas vraiment de mythe, mais peut-être plutôt d'épopée, dans la mesure où Gilgamesh, c'est, pour nous, ce n'est pas un dieu, c'est un héros. Cela dit, c'est un petit peu tirer les choses par les cheveux, parce que de toute façon, les gens qui ont écrit l'histoire de Gilgamesh ne parlaient pas de mythe, ne parlaient pas d'épopée, et ils donnaient un titre à cette histoire. Et comme c'est une histoire qui vient du Proche-Orient ancien, de notre Proche-Orient ancien, le titre qu'on donnait aux histoires, c'était les premiers mots de l'œuvre. C'est pour ça que les premiers mots étaient très importants. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent des livres à ce salon. Donc, je ne sais pas s'ils ont l'affre des premiers mots, mais en tout cas, pour les textes antiques, les premiers mots sont très importants parce qu'ils définissent l'œuvre. Alors, quels sont les premiers mots? Ben, suspense, je vais vous le dire, mais Gilgamesh est une histoire qui a été écrite plusieurs fois, il y a plusieurs versions. Et donc il y a plusieurs fois des premiers mots différents parce que ça ne commence pas toujours au même endroit. Alors en tout cas, Gilgamesh a été un héros célèbre déjà dans l'Antiquité, dans la très haute Antiquité. Et on va voir que son histoire déjà dans l'Antiquité s'est transmise sur plus de 1000 ans, en tout cas a été réécrite pendant 1000 ans, mais certainement lue pendant beaucoup plus que ça. Et pour nous aujourd'hui, enfin pour les contemporains, eh bien quand l'histoire de Gilgamesh a été redécouverte, redéchiffrée, ce qui s'est passé il y a quoi, un peu moins de 250 ans, eh bien c'est devenu très rapidement aussi un héros célèbre, et j'allais dire maintenant presque un héros grand public, c'est-à-dire que quand on fait des conférences grand public sur Gilgamesh, ou bien quand on a des étudiants qui arrivent en histoire de l'Orient ancien et qui ne savent rien, ce qui est normal, ils connaissent quand même Gilgamesh. Quand on a une classe, qui a entendu parler de Gilgamesh, il y a toujours quelques mains qui se lèvent, et en général, pas forcément, enfin, ils n'en ont pas forcément entendu parler par, j'allais dire, les livres universitaires autorisés, etc., mais plutôt par des fictions, puisqu'il y a toutes sortes de domaines artistiques, fantastiques, qui se sont appropriés le personnage de Gilgamesh. Alors, bon, moi, j'avoue que je ne connais pas bien le monde de la science-fiction, de l'heroic fantasy, etc. Mais je sais que j'ai trouvé pour l'instant des poèmes, j'ai trouvé des romans de science-fiction, j'ai trouvé au moins une bande dessinée, mais il y en a sûrement beaucoup plus que ça, des dessins, des mises en scène théâtrales, des lectures publiques, des enregistrements musicaux. Et là, sur le trajet entre la gare et le centre, on m'a dit qu'il y avait des mangas. Alors là, je ferai appel à vous, si vous pouvez me faire la liste d'une partie des fictions qu'il y a autour de Gilgamesh, je serais intéressée d'avoir une liste un peu solide. Alors, pourquoi cette célébrité? Bon, déjà, c'est un texte qui a été mieux conservé que celui d'autres mythes ou épopées du Proche-Orient ancien, en tout cas pour la dernière version de l'œuvre qu'on connaît et qui date du début du premier millénaire ou de la fin du deuxième millénaire avant notre ère. Il y a quand même un texte bien conservé, assez long, avec assez peu de lacunes. D'autre part, cette version qui est la plus souvent traduite, elle est rédigée en langue acadienne, qui est une langue sémitique et qui est une langue qu'on comprend bien. Il n'y a pas de problème, il ne faut pas rêver sur les langues mystérieuses qu'on comprend mal, etc. L'acadien, ça se comprend bien, hein, c'est la même famille que l'hébreu ou l'arabe, ça va. D'autre part, ce texte qu'on connaît du premier millénaire, il est très bien charpenté, très long, très bien construit. Enfin, c'est vraiment une histoire avec un début, un milieu, une fin qu'on peut suivre très facilement. Et je dirais qu'il correspond aussi à nos goûts, puisque la littérature proche-orientale antique, quelquefois, on a quand même du mal à entrer dedans, parce qu'il y a des conventions littéraires qui ne sont pas du tout les nôtres. Bon, là, l'histoire du héros Gilgamesh, on la comprend bien. Et d'autre part, c'est une histoire qui traite de thèmes assez universels. Hein, le héros qui cherche finalement une certaine reconnaissance à ses propres yeux ou aux yeux de son peuple, puisque c'est un roi en faisant des exploits extraordinaires pour s'affirmer. Bon, le fait qu'il soit toujours avec un ami qui s'appelle Enkidu, donc l'histoire de l'amitié héroïque qu'on trouve aussi dans d'autres épopées ou dans d'autres aires culturelles. Le thème de la vie et de la mort, notamment, puisque le thème central, c'est le refus de la mort. Pendant toute une partie de l'épopée, le héros fuit devant la mort, devant l'idée qu'il est mortel et cherche la vie éternelle. Il va même au bout du monde chercher le secret de la vie éternelle. Et ce qui le rend évidemment très humain, c'est que bien sûr, il ne trouve pas ce secret et que finalement, il devient mortel et il reste à accepter sa mortalité. Et puis surtout, c'est un texte qui a fait l'objet de plusieurs belles traductions. S'il y en a une à recommander en français, c'est celle de Jean Bottero. Mais il y a eu aussi d'autres traductions en anglais, dans d'autres langues vivantes. Et donc du coup, c'est un texte qui devient abordable. Enfin, le livre de Jean Bottero, on peut le trouver facilement en librairie, on peut le trouver dans les bibliothèques municipales. Donc je crois que beaucoup de gens l'ont lu. Et je dirais que pour un public non averti, c'est assez facile à s'approprier en fait ce texte. Alors que si vous cherchez des choses sur les autres héros d'épopée acadien, Lugalpanda ou Enmerkar, alors là, c'est quand même, ça devient tout de suite plus rare. Et puis, il n'y a aucune traduction en français, par exemple, de ce genre d'œuvre. Alors, bon, on m'a demandé de vous faire une présentation un petit peu scientifique. Donc, ce que je vais vous, enfin, ce dont je vais vous parler, ce n'est pas du tout le vrai Gilgamesh, parce qu'il n'y a pas de vrai. De toute façon, on ne sait même pas s'il a existé ou pas, donc c'est mal parti. Mais c'est simplement vous dire ce que des universitaires travaillant dans sur ce genre de monde peuvent en dire. Donc je vais faire une toute petite mise au point sur le contexte, je dirais, géo-culturel, etc., mais ça va aller vite. Et puis, je vais faire un peu l'histoire de la mise par écrit de ce récit, enfin, quelles sont les différentes étapes auxquelles nous on trouve un personnage qui s'appelle Gilgamesh, avec plusieurs récits qui succèdent les uns aux autres. Ensuite, je vais vous résumer l'épopée, que vous connaissez peut-être là, largement aussi bien que moi. Et puis terminer deux mots peut-être sur la découverte du récit qui elle aussi est un petit peu fantastique. Alors j'avais préparé un PowerPoint, puis rien pour le passer, mais c'est pas grave. Ce qui me manquera le plus dans le PowerPoint, c'est la carte. Mais bon, comme malheureusement l'Irak, la Syrie, etc. sont des pays dont on parle, enfin c'est heureux qu'on en parle, mais c'est malheureux qu'on en parle pour dire tout ce qui n'y va pas depuis pas mal de temps. Je pense que vous avez peut-être une carte du Proche-Orient dans la tête. Et vous savez que l'histoire de Gilgamesh est née dans la région qu'on appelle la Mésopotamie, qui correspond en gros à l'Irak actuel, ce qu'on appelle la Mésopotamie au sens strict, c'est toute la zone entre Tigre et Euphrate, donc ça couvre, sud de la Turquie, un bout de Syrie, un grand bout d'Irak. Et c'est dans le sud de l'Irak que l'écriture a été inventée, en fait, hein, vers 3500, 3200, on n'est pas sûr exactement de la fourchette avant Jésus-Christ. Et aussi une chose que je signale, puisque là aussi j'ai entendu parler d'écologie dans d'autres tables rondes, c'est que le sud de l'Irak, dans l'Antiquité, et même jusqu'à une date relativement récente, jusqu'aux années 70-80, c'était une zone de marais. Aujourd'hui on voit ça, enfin on voit l'Irak comme un pays désert avec du pétrole et de la guerre, donc il y avait déjà du pétrole dans l'Antiquité, mais les gens ne savaient pas trop quoi en faire, enfin ils n'en avaient pas vraiment l'usage. Il y avait déjà de la guerre, il y en a toujours eu, et il n'y avait pas que du désert. Dans le sud, il y avait une région pleine d'eau, une région marécageuse, qui a été asséchée par Saddam Hussein et qui est complètement saccagée maintenant et qu'on n'arrive plus à recoloniser et remettre en marais. Et en fait, c'est dans cette région-là, et pas du tout dans un désert, que l'écriture semble avoir été inventée. Alors je dis semble avoir été inventée parce qu'on n'y était pas. Nous, tout ce qu'on trouve, c'est des textes, et pour l'instant, c'est les plus vieux textes de l'humanité qu'on trouve dans cette région-là. et qu'on trouve écrit sur des tablettes d'argile, puisque dans la région, encore une fois, à part du pétrole et des roseaux, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup de pierres dures, il n'y a pas de métal, il n'y a à peu près rien, mais de l'argile, il y en a, et donc les gens ont trouvé assez vite que le support d'écriture le plus simple, ce serait de modeler des petites plaquettes d'argile, ce que nous on appelle des tablettes, et c'est donc sur ces petites plaquettes d'argile qu'on a nos plus anciens textes, en écriture, enfin, les premiers signes ressemblent un peu à des dessins, hein, on parle de pictogrammes, et puis très vite ça se raidit et ça prend une forme de clou, c'est pour ça qu'on appelle ça une écriture cunéiforme. Donc voilà, j'ai amené le t-shirt militant, voilà ce que c'est une écriture cunéiforme, même mon t-shirt n'est pas en argile, heureusement. Et bon, l'écriture garde cette forme-là, en fait, bon, elle prend cette forme-là, je dirais, autour de 3000 avant Jésus-Christ, pour aller vite, et puis pendant 3000 ans, les gens écrivent avec des signes qui ont à peu près cette forme. Et ces signes ont noté deux langues successivement, le sumérien, les plus anciennes tablettes qu'on connaisse, on pense qu'elles sont écrites en sumérien, je dis on pense parce que pour les toutes premières on a des doutes, mais dès qu'on comprend quelque chose c'est du sumérien. Alors là le sumérien ça peut faire fantasmer parce que c'est une langue qui est la seule dans sa catégorie et on ne sait pas quelle autre langue connue la relier. Et puis à partir du troisième millénaire on a une autre langue qui est écrite à côté du sumérien qui est l'acadien, on sait très bien ce que c'est, donc c'est cette langue sémitique dont je vous parlais. Alors, nos plus anciens textes, ils viennent de la ville d'Uruk. Encore une fois, on dit toujours l'écriture a été inventée à Uruk. C'est un raccourci un peu rapide. Disons que les plus anciens textes qu'on connaît viennent d'Uruk. Bon, peut-être que ça a été inventé dans la ville d'à côté ou ailleurs, on n'en sait rien. Mais ce qu'on a, c'est ce qui a été fouillé, donc c'est les textes d'Uruk. Et ce nom-là est important pour nous, puisque Gilgamesh est supposé être un roi de cette ville d'Uruk. Alors, je vais vous présenter un petit peu la genèse du personnage. Alors, les toutes premières tablettes qu'on a, elles ne nous parlent absolument pas de Gilgamesh. Hein, c'est des contes de moutons du temple de la déesse Inanna, et on n'a pas retrouvé Gilgamesh dedans. On pense que si jamais Gilgamesh a vécu, encore une fois, point d'interrogation, il a pu vivre vers 2700, 2600 avant Jésus-Christ. On n'en a aucune trace dans les textes de cette époque-là, même si on a des textes, pas très nombreux, mais il y en a. Et pourquoi on le situe à cette date-là? Parce qu'on a un récit bien postérieur qui le fait combattre un roi de Kish, que les textes appellent Aka ou Aga. Et alors sur Aga, on n'a rien non plus, mais on a une inscription royale au nom du papa d'Aga, roi de Kish. Et alors là, c'est pas du mythe, c'est pas de l'épopée, c'est vraiment un morceau de vase sur lequel il est écrit monsieur s'appelle Mebaragessi, voilà, joli nom, roi de Kish, avant Jésus-Christ. On n'en a aucune trace dans les textes de cette époque-là, même si on a des textes, pas très nombreux, mais il y en a. Et pourquoi on le situe à cette date-là? Parce qu'on a un récit bien postérieur qui le fait combattre un roi de Kish, que les textes appellent Aka ou Aga. Et alors sur Aga, on n'a rien non plus, mais on a une inscription royale au nom du papa d'Aga, roi de Kish. Et alors là, c'est pas du mythe, c'est pas de l'épopée, c'est vraiment un morceau de vase sur lequel il est écrit monsieur s'appelle Mebaragessi, voilà, joli nom, roi de Kish, juste ça décrit sur le vase. Mais là, on n'est pas dans les textes littéraires, c'est vraiment sûrement le roi de Kish qui a dû offrir un vase dans un temple et puis mettre son nom dessus pour que les dieux ne l'oublient pas. Et c'est la plus vieille inscription royale connue, donc c'est pas Gilgamesh, mais ça tombe à côté, ce serait le père d'un des rois qu'il a combattu. Donc on se dit, s'il y a des rois de Kish dont on connaît les noms par la tradition, et qu'on connaît pas seulement par la tradition littéraire, mais parce qu'on a un fragment de vase, bon, bah, les rois de Kish ne sont pas que des personnages mythiques, ils ont bien existé. Pourquoi pas les rois d'Uruk? Alors on peut toujours rêver qu'un jour on retrouvera un bout de vase avec Gilgamesh, roi d'Uruk. Ça ne paraît pas complètement impossible. En tout cas, il y a dès le milieu du troisième millénaire une tradition autour du personnage de Gilgamesh. Et la première apparition qu'on en a, c'est comme divinité. Il y a des listes avec des centaines de noms de dieux, et dedans il y a un dieu, Gilgamesh, du côté des dieux à cette époque-là. Et puis on le retrouve à l'extrême fin du troisième millénaire, non pas à Uruk, mais à Ur, qui est une ville encore un peu plus au sud, c'est une des villes les plus au sud de l'Irak à l'époque, hein. Enfin je dis à l'époque parce que le golfe Persique, le rivage a reculé, donc maintenant Ur c'est à l'intérieur des terres, mais dans l'Antiquité c'était quasiment au bord de la mer, et les rois d'Ur disent qu'ils viennent d'Uruk et que Gilgamesh compte parmi leurs ancêtres. Donc il y a des hymnes aux rois d'Ur qui disent qu'ils sont de la même famille que le roi Gilgamesh. Et il y a un texte d'un de ces rois d'Ur qui célèbre sa mort et qui raconte qu'après sa mort, eh bien, il descend au royaume des morts. Et dans le royaume des morts, il est accueilli par qui? Eh bien par Gilgamesh, qui est représenté comme étant un personnage qui existe, mais qui existe dans le monde des morts, qui accueille les gens et les rois à leur arrivée aux enfers. Et puis, dernière chose qui date de extrême fin 3e millénaire, début 2e, une longue liste de rois qui raconte l'histoire de. Enfin, pas qui raconte l'histoire, mais qui enregistre les noms de tous les rois de Mésopotamie depuis, dit-on, que la royauté est descendue du ciel. Ça commence comme ça, quand la royauté est descendue du ciel. La royauté était dans telle ville, et puis on présente des listes de villes, et alors dans telle ville, il y a eu tel roi, puis tel roi, puis tel roi. Alors, bien sûr, c'est une reconstruction de l'histoire. Les plus anciens rois de la liste, ils sont complètement mythiques, parce qu'ils ont régné chacun des milliers et des milliers d'années. Et puis, il y a un moment où on a les rois d'Uruk, et à Uruk a régné le roi Gilgamesh. Alors, la liste dit qu'il a régné 126 ans, et qu'il était le fils, cette fois-ci, d'un démon. Alors, c'est plus un dieu, c'est un roi, mais en même temps, c'est le fils d'un démon, donc un être quand même en partie surnaturel. Et puis, il y a un autre roi qui a régné plus de 1000 ans avant Gilgamesh, à Uruk, qui s'appelait Lugalbanda. Et par la suite, Lugalbanda est devenu, dans la tradition, le père de Gilgamesh. Enfin, on voit qu'on a des noms comme ça qui ont déjà fait l'objet d'une tradition. Et tout début du deuxième millénaire, cette fois-ci, j'avance doucement dans le temps, donc vers 1800 à peu près, on a des récits narratifs pour la première fois autour de Gilgamesh. Alors, tout ce que je vous ai cité jusqu'à présent, c'était en sumérien. Là, je suis encore dans le sumérien. On a retrouvé 5, et à chaque fois, c'est des textes qui font 200, 300, 400 lignes, donc quand même assez consistants, et qui racontent un exploit du héros Gilgamesh. Alors, il y a justement ce combat entre Gilgamesh, roi d'Uruk, et puis Aga, roi de Kish, donc toute une histoire là-dessus. Une autre histoire sur la mort de Gilgamesh. Alors, c'est bizarre d'avoir un héros qui meurt, mais on raconte que Gilgamesh est malade, meurt, descend aux enfers. Alors c'est un récit qui a fait beaucoup fantasmer parce qu'il y a une ligne dont on n'arrive pas à comprendre si elle mentionne ou pas des sacrifices humains, c'est-à-dire est-ce que Gilgamesh est enterré avec sa femme et ses fils ou bien est-ce qu'on l'enterre tout seul. Et il y a des manuscrits qui ont été retrouvés encore assez récemment et retraduits récemment et qui mentionnent le fait qu'on enterre Gilgamesh sous le lit de l'Euphrate. On détourne l'Euphrate, on fait une tombe, on l'enterre et puis après hop, on remet l'Euphrate à sa place. Ces deux pièces-là, Gilgamesh et Aka et la mort de Gilgamesh, n'ont pas eu vraiment de postérité. Hein. Elles sont écrites en sumérien, mais après, il n'y a pas eu de postérité littéraire. Il y en a deux, trois autres, en fait, en revanche, qui ont, elles, eu une suite et été recyclées, reprises dans d'autres histoires plus tardives. Il y en a deux qui racontent les histoires de combats héroïques de Gilgamesh contre des héros absolument fantastiques. Une qui raconte le voyage de Gilgamesh vers un pays qu'on appelle la forêt des cèdres. Alors bon, on a dit c'est le Liban, je ne sais pas s'il faut mettre des étiquettes géographiques sur des pays qui peuvent être en fait tout à fait mythiques. En tout cas, Gilgamesh entreprend un grand voyage vers la forêt des cèdres. Et dans la forêt des cèdres, a un gardien qui s'appelle Uwawa Wumbaba, qui est alors lui un personnage surnaturel, mais qui n'est pas un personnage méchant, hein, mais qui fait peur à tout le monde, qui est entouré d'éclats surnaturels, qui garde cette forêt parce que les cèdres ne doivent pas être coupés. Évidemment, Gilgamesh, en tant que héros, va avec son ami Enkidu couper les cèdres, mais pour ça, il faut d'abord qu'il abatte le géant Umbaba, donc il se bat contre Umbaba. Autre histoire, déconnectée de la précédente, Gilgamesh combat un taureau qu'on appelle le taureau du ciel, qui est envoyé par les dieux se battre contre lui. Alors évidemment, à chaque fois, Gilgamesh est victorieux. Donc là, on a deux récits un peu parallèles, à chaque fois, Gilgamesh et Enkidu qui combattent un monstre. Et puis, encore une autre histoire, alors encore une fois c'est nous qui donnons des étiquettes, hein, qu'on appelait Gilgamesh, Enkidu et les Enfers, ou le monde des morts. Gilgamesh joue avec des objets qu'on ne sait pas très bien identifier, mais qui ont l'air d'être des objets très importants, qui seraient des insignes de royauté, et puis il laisse tomber ces objets dans une sorte de crevasse, et ces objets partent sous terre et partent dans le monde des morts. Et son ami Enkidu se dévoue pour aller rechercher les objets, le problème étant que quand on est allé dans le monde des morts, eh bien, on sait tous qu'en général c'est un aller simple et on ne revient pas. Alors Enkidu ne peut pas revenir, mais Gilgamesh réussit quand même à rappeler un moment l'esprit d'Enkidu et lui demande ce qu'il a vu dans le monde des morts. Et toute une partie de cette histoire, eh bien, c'est un jeu de questions-réponses, Gilgamesh disant à Enkidu, et alors est-ce que tu as vu dans le monde des morts? Alors, les enfants qui sont morts en bas âge, les gens qui n'ont pas eu d'enfants, les gens qui ont eu un fils, deux fils, trois fils, ceux qui sont morts brûlés, ceux qui sont morts noyés, etc. Puis à chaque fois, Enkidu, j'allais dire, donne des nouvelles, enfin explique ce qui se passe pour toutes ces catégories de personnes dans le monde des morts. Alors, vous voyez, si jamais Gilgamesh a existé, si jamais il a vécu vers 2600, ben, il a déjà fallu plusieurs siècles pour que toutes ces histoires soient vraiment mises par écrit, mises en forme et qu'on passe je dirais de l'oralité à l'écriture. Je crois qu'il y a une table ronde demain et que je dois y aller aussi sur l'oralité et l'écriture. Ben là, je crois qu'on a un exemple de récits qui ont dû être véhiculés par une tradition orale. avant d'être couché par écrit. Alors, on peut toujours supposer qu'on trouvera des manuscrits plus anciens, mais enfin, pour l'instant, après 150 ans de fouilles au Proche-Orient, on ne les a pas, mais enfin, ça peut encore venir. Ce qui est intéressant, c'est de voir que ces récits en sumérien mettent en avant plusieurs thèmes. Bon, les exploits guerriers de Gilgamesh, les combats contre les monstres. Un personnage aux côtés de Gilgamesh qui est Enkidu, qui dans les récits sumériens est quelquefois son ami, quelquefois son serviteur, et puis quand même plusieurs récits liés à la mort, hein, la mort de Gilgamesh, le monde des morts, etc. Il y a un côté proche de la mort qui est assez obsessionnel. Peut-être à peu près en même temps que ces récits en sumérien, autour de aussi 1800-1700, on est dans une culture bilingue dans le sud de la Mésopotamie, où les gens écrivent en sumérien, écrivent en akkadien. Le sumérien est devenu une langue morte, mais reste une langue de culture, mais en même temps on écrit l'akkadien qui est la langue vivante. Eh bien, on a des tablettes écrites en sumérien qui mentionnent aussi Gilgamesh. Et alors là, on est très triste parce que pour l'instant, on n'a pas d'histoire continue, on n'a que des morceaux de tablettes cassés. Encore une fois, l'argile, ça se casse très bien, hein, surtout l'argile crue. Donc on n'a pas de récit complètement continu, mais on a des morceaux de récit, et on a l'impression qu'en fait, ces morceaux de récit correspondent à un récit qui devait être très long, très structuré, plus long que les textes en sumérien, mais dont on n'a que des buts de témoins, que des épaves, et des épisodes comme ça, dont certains reprennent les histoires en sumérien, puisqu'on retrouve Gilgamesh qui va combattre Ouawa, mais on a un petit peu ce qui se passe avant. Il se fait fabriquer des armes, par exemple, et puis quand il va affronter Ouawa, en chemin, il fait quand même des rêves, parce que Ouawa est très effrayant, même si on ne l'a jamais vu, et à chaque fois il fait des rêves terribles. À chaque fois, Enkidu interprète ses rêves en lui disant « mais non, tu vas voir, ça va bien se passer ». Enfin, Enkidu a toujours une interprétation positive des rêves, et puis il y a l'épisode du combat contre Ouawa. Ensuite, bon, c'est cassé, et puis on a d'autres tablettes trouvées à d'autres endroits de la Mésopotamie, hein. Ça ne vient pas d'un seul endroit, mais ça vient de plusieurs sites, qui racontent que Gilgamesh part au bout du monde chercher la vie éternelle. Et alors, on connaît le titre de ce récit. Alors, on n'a pas la première tablette. Il y en a sûrement plusieurs, on n'a pas la première tablette, mais quand un texte est long, on l'écrit sur plusieurs tablettes, et puis pour qu'on s'y retrouve, les scribes mettent au début ou à la fin de la tablette, c'est la première tablette, ou la deuxième, ou la troisième de la série qui s'appelle comme ça. Et alors, je crois qu'on a des bouts de deuxième et de troisième tablette d'un récit qui s'appelle « Plus grand que tous les autres rois ». Donc, Gilgamesh commençait comme ça, enfin, le récit commençait comme ça au début du deuxième millénaire. Gilgamesh était un roi plus grand que tous les autres rois. Donc on voit bien l'optique du récit, c'était les exploits vraiment héroïques, un peu le super-héros qui était mis en avant. Et puis, on continue au fil du temps à trouver des morceaux de tablettes, comme ça, avec des bouts de Gilgamesh. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que plus ça va, plus on en a un petit peu partout. Tout ce que je vous ai cité, pour l'instant, ça venait quand même, en gros, du sud de la Mésopotamie, hein, ce qui serait centre-sud de l'Irak actuel. À partir du milieu du deuxième millénaire, donc là on est au 14e, 13e siècle avant Jésus-Christ, on commence à avoir des manuscrits aux endroits, à des endroits quand même assez éloignés, même très éloignés de la Mésopotamie, puisqu'on en trouve à Megiddo. Donc Megiddo, vous savez, c'est en Israël maintenant. On en a à Emar. Emar, c'est un site qui a été fouillé, qui est sur la grande boucle de l'Euphrate, qui est en Syrie. Et on en a à Ratusha, qui est la capitale hittite, en Turquie. Donc ça fait quand même, pour un récit qui vient du sud de l'Irak, l'histoire a quand même beaucoup voyagé, ce qui témoigne aussi de sa grande popularité. Hein. Encore une fois, ne pas oublier que jusqu'à une date très récente, c'est-à-dire jusqu'à l'invention de l'imprimerie, tout texte écrit est une pièce unique. Donc toute tablette, pour nous, est un objet extraordinaire, une pièce unique. Bon. Donc ça a été quand même recopié, ça a circulé. Et chez les Hittites, eh bien, les Hittites seraient tellement plus qu'ils l'ont traduit en Hittite. Donc on a des fragments de Gilgamesh en Hittite. Et on a même des fragments de Gilgamesh en Rourite, qui est encore une autre langue qui a été employée dans le nord de la Mésopotamie. Alors, celle-là, j'aimerais pouvoir dire que c'est une langue mystérieuse, on ne comprend rien, etc. C'est pas vrai, ça a été déchiffré depuis les années 80, donc il y a 5 personnes, 10 personnes sur Terre, peut-être, qui comprennent le Rourite, mais voilà, pas moi, mais qui comprennent que c'est bien l'histoire de Gilgamesh qui a été traduite en Rourite. Et puis, on arrive à la version la plus longue, la plus structurée, la plus belle qu'on ait retrouvée. C'est celle qui vient de Ninive. Alors, Ninive, c'est la toute dernière capitale de l'Empire néo-assyrien. C'est le nord de l'Irak actuel. C'est tout près de la ville de Mossoul, en fait. Hein, le site de Ninive, c'est vraiment dans, tout près de la ville de Mossoul, donc nord de l'Irak. Et ça a été la dernière grande capitale assyrienne, et vous connaissez peut-être le nom du roi Assurbanipal, hein, qui est un des plus célèbres, et qui avait fait rassembler dans ses palais ce qu'on a appelé une bibliothèque en allant un peu vite. En fait, c'était beaucoup de manuscrits, dont beaucoup étaient des manuscrits magiques pour protéger le roi, beaucoup de tablettes d'exorcisme, beaucoup de tablettes de présage, et aussi des textes littéraires, mais très, très minoritaires. En fait, la littérature est très minoritaire chez nous, et dans ces textes littéraires, eh bien, il y avait l'histoire de Gilgamesh. Et alors là, écrite de façon, j'allais dire, standardisée, sur 12 tablettes, Il y a plusieurs morceaux des plusieurs 12 tablettes qu'on trouve dans cette bibliothèque de Nier, mais on en trouve aussi à d'autres endroits du Proche-Orient, et c'est toujours écrit, le texte est toujours le même, réparti sur 12 tablettes, avec toujours les lignes dans le même ordre, etc. Là, ça bouge plus, c'est-à-dire qu'il y a un moment où ça a dû se figer, et on pense que c'est un peu au tournant deuxième, premier millénaire, que ça a dû se figer, se canoniser. À cette époque-là, on dit qu'il y a un monsieur qui a composé l'épopée de Gilgamesh. On a un nom d'auteur qui serait Sinleke Unini, mais en fait, ça, c'est un nom typique fin deuxième millénaire, alors qu'on a vu que l'épopée existe bien avant, donc c'est peut-être le monsieur qui a rédigé la version qu'on appelle, nous, la version standard, mais bon, il y avait quand même d'autres textes avant. Et ensuite, c'est recopié, mais alors cette fois-ci, né varié tour, hein, ça bouge plus. Et le manuscrit le plus récent qu'on ait, c'est 3e siècle avant Jésus-Christ, donc en pleine époque hellénistique. Et alors, dans cette dernière version, eh bien, on a un titre, mais qui n'est plus le même, qui est « Celui qui a tout vu ». Et alors là, on insiste beaucoup plus sur le héros sage qui a mené une quête de la sagesse, qui est allé au bout du monde. Alors ça commence par « Celui qui a tout vu », etc. Et puis d'ailleurs, un peu plus loin, à la ligne, je ne sais plus si c'est 30-40, enfin, dans ces eaux-là, on retrouve d'ailleurs « Surpassant tous les autres rois », ce qui veut dire qu'on a gardé la version du début du deuxième millénaire, mais on a rajouté quand même 30 ou 40 vers avant, qui changent complètement le sens. Alors, point, je dirais, à retenir sur cette présentation. Bon, quand on parle d'épopée de Gilgamesh, mais finalement, on va vite, parce qu'on ne sait jamais de quoi on parle. C'est pour ça que, de toute façon, je ne peux pas vous présenter ni le vrai Gilgamesh, ni la vraie épopée de Gilgamesh, puisqu'il y en a eu, plusieurs. C'est un récit qui a vécu, qui a été réécrit sur 1000 ans, et qui, après, a continué à être lu et copié, mais qui a plus bougé. La composition, ça a été fait dans deux langues différentes, hein, le sumérien et puis l'acadien. Une partie des récits sumériens étant traduits en acadien, mais pas tout. Et on n'a jamais aucun manuscrit complet. Même la version Ninive sur 12 tablettes, avec à chaque fois plusieurs exemplaires des tablettes, il y a toujours des cassures, il y a toujours des morceaux cassés. Donc j'ai envie de vous dire, si jamais, ça peut arriver, vous voulez une approche un peu scientifique de Gilgamesh, ben, regardez ce que vous lisez en général. Bon, le livre de Jean Bottero, par exemple, est très bien fait, parce qu'il traduit la version de Ninive, et puis à la fin, il traduit les autres versions plus anciennes. Mais il y a aussi, je dirais, des livres plus grand public, que je ne condamne pas, hein, je tiens à le dire, mais qui racontent l'histoire de Gilgamesh comme s'il y en avait qu'une, et qui, en fait, j'allais dire, bouchent les trous de la version de Ninive avec des bouts plus anciens, enfin, qui font une espèce de chose mixte. Bon, après, tout dépend de l'approche qu'on veut avoir de Gilgamesh. Bon, nous, on est toujours obligés de regarder, enfin, voilà, on traduit quoi, on regarde un passage de quelle époque, etc. Autre chose aussi, bon, je l'ai déjà dit, mais je me répète parce que je trouve que c'est vraiment important, c'est que c'est une œuvre qui était vraiment extrêmement célèbre dans l'Antiquité, et parmi les œuvres littéraires, on n'en connaît pas qui était aussi célèbre. Les seules œuvres qu'on connaisse qui étaient aussi célèbres, ce n'est pas du tout les œuvres littéraires, c'est les recueils de présages, hein, tous les recueils de divination, eux aussi, ils ont été copiés 1000 ans, bon, mais c'est des textes, je dirais, techniques. Mais comme œuvre littéraire, c'est la seule qu'on connaisse qui était à la fois aussi recopiée et aussi diffusée. Alors maintenant, de quoi ça parle? Alors là, ceux qui connaissent déjà peuvent dormir, parce que je ne vous apprendrai rien. Donc je vous résume l'œuvre en 12 tablettes, qui est quand même la plus complète, donc la version la plus récente. Hein. D'abord, donc, dans la version la plus récente, ça ne commence pas par Gilgamesh lui-même, mais ça commence comme une espèce d'hymne aux murailles d'Uruk, la ville dont Gilgamesh est le roi, et on s'adresse aux gens qui lisent l'épopée ou qui l'entendent réciter en disant « Regarde les murailles d'Uruk, comme elles sont grandes, comme elles sont belles », et on arrive à Gilgamesh en disant « C'est le roi Gilgamesh qui a construit les murailles d'Uruk ». Alors je trouve que c'est très émouvant de savoir que les murailles d'Uruk, on les a retrouvées. Hein, Gilgamesh a construit les murailles d'Uruk pour l'éternité. Et, enfin, on les a retrouvées, pas moi, mais les archéologues allemands qui ont fouillé Uruk ont retrouvé des petits bouts des murailles d'Uruk. Alors, donc, Gilgamesh, très puissant, a construit les murailles d'Uruk. Il était roi d'Uruk, mais il était un roi, finalement, beaucoup trop puissant. Et tellement puissant et hyperactif qu'il opprimait en permanence son peuple. Et alors, on ne comprend pas exactement de quelle nature est l'oppression. Il y a plusieurs possibilités d'ailleurs, qui ne s'excluent pas les unes des autres. D'abord, apparemment, il épuisait les jeunes gens parce qu'il voulait toujours jouer avec eux. Enfin, il avait une énergie à revendre, ce qui fait qu'il épuisait même tous ses compagnons de jeu. Donc il faut imaginer les jeunes hommes costauds, mais il les épuise. Et par rapport aux femmes, vous imaginez aisément ce qu'il peut faire, hein, comme il a trop d'énergie. Et du coup, le peuple d'Uruk n'en peut plus et supplie les dieux de bien vouloir faire quelque chose pour arrêter Gilgamesh dans son élan, enfin pour faire en sorte qu'il pèse un peu moins sur son peuple. Et les dieux entendent la prière des habitants d'Uruk. Il décide de neutraliser Gilgamesh en créant face à lui, d'une certaine manière, son double, qui est Enkidu. Alors à ce point, le récit raconte que les dieux créent un Enkidu avec de l'argile, ils modèlent Enkidu, ce qui est une des façons dont on imagine la création de l'homme dans le Proche-Orient ancien et que vous connaissez aussi par la Bible. Là, simplement, les dieux créent un seul exemplaire et ils lâchent Enkidu dans la steppe. Et alors Enkidu, dans la steppe, est lâché au milieu des animaux, c'est une espèce d'homme sauvage qui se promène tout nu, qui vit avec les bêtes, qui boit l'eau des fossés, qui broute de l'herbe. Et à force de vivre avec les bêtes sauvages, eh bien, il embête beaucoup les chasseurs, parce que les chasseurs essayent de capturer les bêtes sauvages qui sont des prédatrices, et Enkidu défait tous leurs pièges. Enkidu est toujours du côté des animaux. Donc de nouveau, ça ne va plus, les hommes vont se plaindre aux dieux, parce que c'est bien de créer Enkidu, mais c'est aussi un problème pour les hommes, enfin au moins pour les chasseurs. Et donc de nouveau, les dieux les entendent, et alors les gens vont se plaindre aussi à Gilgamesh, et Gilgamesh envoie une femme, il envoie une prostituée qui est apparemment un métier, qui a tous ses titres de noblesse, pour séduire Enkidu et pour le civiliser un petit peu. Et donc on emmène la dame dans la steppe, et quand arrive à l'endroit où les animaux viennent boire, et quand Enkidu arrive, bon, tout le monde s'en va sauf la prostituée qui reste là, qui se dévêt, et Enkidu, qui est aussi quelqu'un qui est rude gaillard en bonne santé, dit-on, fait l'amour à la prostituée 7 jours et 7 nuits. Et au bout de 7 jours et 7 nuits, eh bien, ça suffit, on arrête, et il veut retourner à sa vie sauvage. Et là, il se rend compte que les animaux le fuient, se détournent de lui. Et donc, il se retourne vers la prostituée en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et la prostituée lui dit, bah, maintenant, tu peux plus aller avec les animaux, donc tu viens avec les hommes, tu es un homme, tu dois venir avec les hommes. Donc, elle lui prête une partie de ses vêtements. Elle l'emmène chez des gens les plus proches, qui ne sont là plus les chasseurs, mais qui sont les bergers, qui gardent leurs troupeaux aux limites de la steppe. Et les bergers entreprennent de civiliser Enkidu, et ils le civilisent en lui faisant boire de la bière et manger du pain, c'est-à-dire manger des éléments qui viennent de produits cultivés, qui sont issus du grain, qui sont des éléments, vraiment des aliments fabriqués. Et Gilgamesh, pendant ce temps-là, fait des rêves, c'est une histoire où on rêve beaucoup, et commence à rêver qu'il va se passer quelque chose dans sa vie, qui sont des rêves prémonitoires qui annoncent en fait qu'il va rencontrer Enkidu. Alors Enkidu petit à petit est civilisé, et puis comme les dieux l'ont créé pour, j'allais dire, neutraliser Gilgamesh, eh bien les bergers lui disent, allez maintenant, tu dois aller à la ville d'Uruk rencontrer le roi Gilgamesh, et on explique à Enkidu ce qui se passe à Uruk. Alors Enkidu est scandalisé, et il va à Uruk, et là il tombe sur Gilgamesh, et ça se passe précisément un jour de mariage, et apparemment Gilgamesh avait l'intention d'aller voir la mariée avant le mari. Alors Enkidu est scandalisé, fait obstacle à Gilgamesh, ils se battent tous les deux, et ils se battent sans qu'apparemment il y ait un vainqueur, et ils se reconnaissent finalement tous les deux comme étant de force égale. Et donc au lieu de continuer à s'entretuer, eh bien ils deviennent amis. Enkidu s'installe à Uruk avec Gilgamesh, et puis au bout d'un moment, vous comprenez que deux héros tous les deux, eh bien, qui n'ont rien à faire à Uruk autre que régner et puis être l'ami du roi, commencent à s'ennuyer et ferment. Et donc, ils décident d'aller faire quelque chose qui soit à la hauteur de leur énergie et de leur force et de leurs envies héroïques. Et ils décident d'aller combattre le géant Uwawa. Alors, c'est Gilgamesh qui a envie d'aller combattre Uwawa. Enkidu le met plutôt en garde en disant, mais tu sais, quand moi je courais dans la steppe avec les animaux, j'ai entendu, la réputation d'Uwawa est arrivée jusqu'à moi, c'est un être terrible, ça va être très difficile de le combattre. Mais Gilgamesh lui dit, mais non, faut y aller. Et il se prépare à l'expédition, et alors il se prépare à l'expédition de plusieurs façons. D'abord, Gilgamesh réunit l'assemblée des jeunes gens en disant, est-ce qu'il faut aller combattre Uwawa? Alors les jeunes disent oui, il faut y aller. Ensuite, il réunit l'assemblée des anciens qui disent, est-ce qu'il faut aller combattre Uwawa? Donc sans surprise, les anciens disent non. Et sans surprise, les jeunes n'en font qu'à leur tête et donc décident qu'il faut aller combattre Uwawa. Alors l'assemblée des jeunes décide, mais en fait, il n'y a que Gilgamesh et Enkidu qui vont tous les deux en héros solitaires. Et puis, pour aller combattre Uwawa, ils se font fabriquer des armes, donc ils vont à la forge, ils se font fabriquer des armes. Et dans ce passage-là, notamment, on voit très bien que Gilgamesh et Enkidu étaient représentés comme des géants, parce qu'on dit le poids des armes. Alors ils ont des armes qui pèsent des centaines de kilos, ils fabriquent des haches, des épées, etc. Et on ne donne pas la dimension, mais on donne le poids des armes, c'est absolument phénoménal. Donc vous pouvez imaginer des espèces de géants qui vont combattre un monstre. Alors ensuite, voyage. Rêves successifs d'Enkidu pendant ce voyage, donc ça c'est ce qu'on connaissait déjà par les versions du début du deuxième millénaire, et à chaque fois Enkidu dit mais si ça va bien se passer, et finalement les héros arrivent à la montagne des cèdres et rencontrent Uwawa, se battent contre lui et sans surprise arrivent à le vaincre. Et Uwawa à ce moment-là implore la pitié des héros et demande qu'on ne le tue pas. Alors Gilgamesh serait d'accord pour l'épargner, mais c'est Enkidu qui insiste pour qu'il tue Uwawa. Et donc les deux héros tuent Uwawa. Et une fois que Uwawa est mort, eh bien la forêt des cèdres n'a plus de gardien, et les deux héros abattent les cèdres et d'une certaine façon les resacralisent, puisqu'ils les renvoient, ils envoient les cèdres en Mésopotamie, mais pour construire des portes pour les temples des dieux. C'était une façon de dire, bon, on commet un sacrilège d'une certaine façon en allant dans cette forêt où on n'a pas allé, mais on fait ça quand même pour les dieux, et on se fait pardonner ce sacrilège en faisant en offrant ces cèdres aux divinités, en faisant une construction pieuse. Et alors après cet exploit, eh bien, retour triomphal des héros à Uruk. Grande fête populaire. Alors bon, les gens crient qui est le plus beau, qui est le plus grand, qui est le plus fort, c'est Gilgamesh le plus grand, le plus beau. Et la déesse Ishtar entend jusque dans les cieux la renommée de Gilgamesh, Ishtar étant la déesse de l'amour et aussi de la guerre, et elle vient sur terre à Uruk et elle propose à Gilgamesh de l'épouser. Ishtar est aussi la grande déesse d'Uruk. Et alors là, Gilgamesh, au lieu d'être flatté, refuse de l'épouser, et d'une façon absolument mufle, lui dit « je ne veux pas t'épouser, parce que… » Et puis il lui déroule la liste de tous les amants qu'elle a eus, en disant « à chaque fois tu leur as porté malheur ». En particulier ton premier mari, Dumuzi, il est parti dans le monde des morts, tu l'as livré aux démons qui l'ont emmené dans le monde des morts, etc. Bon, donc je n'ai pas envie, en gros, d'être le énième mari de ta liste à qui il arrivera malheur. Donc Ishtar, ulcérée, scandalisée d'avoir été si mal reçue, remonte au ciel et demande à son père Anu ce qu'elle peut faire contre Gilgamesh, enfin comment elle peut se venger. Alors le dieu Anu temporise un peu parce que sa fille Ishtar l'agace, toujours un mauvais caractère. Bon. Et finalement elle demande à son père de lui donner le taureau céleste, et donc son père Anu lui dit « bon bah vas-y, prends le taureau céleste ». Alors le taureau céleste est une espèce de monstre, qui détruit tout partout où il passe. Donc il a de la fumée, en fait, du feu qui lui sort par les naseaux, et dès qu'il donne un coup de patte quelque part, il y a des fossés qui s'ouvrent, enfin, donc il arrive dans Uruk, et puis là aussi, une sorte de catastrophe, il commence à dévaster Uruk. Et évidemment, Gilgamesh et Enkidu, qui n'attendaient que ça, se précipitent contre le taureau, donc scène, j'allais dire, de corrida, arrive à battre, à vaincre le taureau, à le neutraliser, et à le tuer. Et alors Ishtar est là, complètement dépitée, elle assiste à la mise à mort du taureau, et Enkidu envoie à la figure d'Ishtar une cuisse du taureau en lui disant « ben voilà, reprends ton taureau », enfin il l'envoie promener de façon extrêmement discourtoise. Et alors là, Ishtar remonte au ciel encore plus ulcéré que la première fois, et les dieux apparemment tiennent conseil et décident que bon, trop c'est trop, et il va falloir faire quelque chose pour calmer les deux héros. Et ce qu'il trouve de terrible, c'est de tuer l'un des deux et de tuer Enkidu, en fait, ce qui fera d'une pierre deux coups, puisque c'est le grand ami de Gilgamesh. Et à ce point, Enkidu tombe malade et commence à faire des rêves qui annoncent sa mort. Il comprend qu'il va mourir et il maudit les chasseurs et le chasseur qui est cause, en fait, directement de sa création et donc de sa naissance et de sa mort. Il maudit la courtisane. Mais à ce point, les dieux lui disent « mais pourquoi maudis-tu la courtisane? Tu as quand même eu quelques bons moments avec elle, et puis c'est elle qui t'a civilisé. » Donc Enkidu, à ce point, bénit la courtisane, ce qui est assez intéressant, parce que ça veut dire que du coup, les prostituées avaient une image complètement ambivalente, hein, dont on disait beaucoup de mal, mais en même temps, beaucoup de bien, qui était à la fois reconnu socialement et méprisé. Et Enkidu tombe de plus en plus malade, il se voit dans ses rêves emporté aux enfers, et finalement, il meurt. Alors Gilgamesh se retrouve tout seul, complètement effondré. Le texte dit qu'il veille, il ne veut pas croire que son ami est mort, il veille son ami Enkidu, il pleure sur son corps. Et le texte dit qu'il veille 6 jours, 7 jours, jusqu'à ce que les vers lui tombent du nez. Donc là, il comprend que quand même il faut l'enterrer. Et il s'en va, après lui avoir rendu les rites funéraires nécessaires. il s'en va, et Gilgamesh a compris à ce moment-là que lui-même était mortel, que ce qui était arrivé à Enkidu allait lui arriver, et qu'il devait absolument échapper à son destin, puisque Gilgamesh ne veut pas mourir, c'est un héros, mais il a peur de mourir, il ne veut pas mourir. Alors comment faire pour échapper à la mort? Eh bien, il se souvient qu'il y a deux personnes qui ont échappé à la mort, qui sont les gens qui ont assisté au déluge, puisqu'il y a un récit de déluge dans la tradition de Mésopotamie, et donc l'équivalent du Noé mésopotamien, si vous voulez, et de sa femme, les deux personnes qui ont sauvé l'humanité du déluge en construisant un bateau. Et pour les récompenser d'avoir sauvé l'humanité, les dieux leur ont accordé la vie éternelle et les ont envoyés vivre au bout du bout du bout du bout du monde. Donc on ne sait pas trop où ça se situe dans une géographie mythique, mais Gilgamesh doit faire un chemin très très long pour aller les rejoindre. Et évidemment, ce qu'il veut faire, c'est les interviewer en disant « Bon, donnez-moi la recette, comment a-t-on la vie éternelle ?» Alors, il fait un voyage très 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 long, et là, le texte, c'est la partie peut-être la moins bien conservée du texte. Alors, on comprend qu'il arrive à une montagne qui est gardée par un homme scorpion et une femme scorpion, qui le laisse passer, finalement, et puis il passe dans la montagne, il passe dans les chemins qu'emprunte le soleil, là où passe le soleil la nuit, en fait, quand on ne le voit pas, et il fait un long voyage d'obscurité, et puis il arrive au bout du monde, et là, il rencontre une aubergiste, qui est un endroit assez étrange, parce que mettre une auberge au bout du monde... apparemment pas beaucoup de clients, et il lui dit ben, « Où vas-tu ?» Alors il lui raconte toute son histoire, et il lui dit « Je cherche la vie éternelle. » Et le bergiste lui dit ben, « Tu perds ton temps, tu ne la trouveras pas. » Mais bon, il continue quand même, il ne veut pas l'entendre, enfin, il ne veut pas écouter son discours, et il finit par trouver la personne qui va le faire passer jusque chez le survivant du déluge. Alors, il faut prendre un bateau, donc on ne sait pas s'il est dans une île, derrière un bras de mer, derrière une rivière, on ne sait pas trop, mais en tout cas il faut y aller en bateau, donc on prend le bateau, et puis le passeur le dépose chez le survivant du déluge qui s'appelle Utanapishtim. Bon. Et là, Gilgamesh, tout heureux d'être arrivé au but, trouve donc Utanapishtim et sa femme et leur dit ben, « Comment avez-vous fait ?» Et à cet endroit-là, on arrive à la 11e tablette, donc c'est celle du t-shirt, Utanapishtim dit « Eh ben, je vais te raconter l'histoire du déluge. » Et alors là, premier copier-coller d'histoire, il y avait un mythe de déluge, et dans l'histoire de Gilgamesh, paf, copier-coller, on connaît le mythe du déluge, paf, Utanapishtim raconte, alors voilà ce qui s'est passé, il y a eu un déluge, etc., qui a emprunté vraiment une autre histoire. Donc il lui raconte toute l'histoire du déluge, et puis à la fin, il termine en disant, ça se reproduira pas, les dieux ont dit que ça se reproduira pas, donc tu n'as aucune chance, en gros, ma femme et moi, on est les deux seuls à avoir la vie éternelle, et pour toi, c'est dommage, mais tu l'auras pas. Alors Gilgamesh est très dépité, et Utanapishtim essaye de le raisonner en lui disant « Mais écoute, tu veux résister à la mort, mais c'est pas possible, déjà, un homme ne peut pas résister au sommeil. Essaye de ne pas dormir pendant 6 jours, et tu verras bien, le sommeil est le frère de la mort, même le sommeil, tu ne pourras pas y résister. » Alors Gilgamesh répond que si, mais bien sûr, je peux résister au sommeil, et naturellement s'effondre endormi. Il dort 6 jours et 6 nuits, et quand il se réveille, Utanapishtim et sa femme lui disent « Écoute, tu vois bien, même le sommeil, tu ne peux pas, 6 jours et 6 nuits, t'as pas pu, même un jour, t'as pas pu, donc ne t'acharne pas. » Alors la femme d'Utanapishtim a quand même pitié et dit à son mari, écoute, on peut peut-être quand même faire quelque chose pour lui, on ne peut pas lui donner la vie éternelle, mais on va quand même lui donner un petit truc pour qu'il puisse prolonger ses jours, et donc ils lui apprennent qu'au fond de l'eau pousse une plante qui ne donne pas la vie éternelle, mais qui permet de se régénérer, qui donne l'éternelle jeunesse. Donc si jamais Gilgamesh arrive à aller chercher cette plante au fond de l'eau, eh bien il pourra la manger quand il se sentira devenu vieux, et il redeviendra un jeune homme. Alors évidemment, Gilgamesh ne fait ni une ni deux, plonge, trouve la plante, cherche la plante, et repart au rock avec sa plante en main. Et manque de chance, le voyage du bout du monde jusqu'à Uruk est assez long, et à un moment, il a envie de se rafraîchir, il est au bord de la mer, il pose sa plante, il va se baigner, ne laissez jamais vos affaires sans surveillance quand vous allez vous baigner, un serpent arrive, mange la plante, et Gilgamesh arrive et trouve le serpent qui s'en va avec sa plante et voit le serpent qui mue. Donc c'est pour ça que les serpents muent, c'est le récit, ce qu'on appelle le récit éthiologique. Pourquoi est-ce que les serpents muent? Parce qu'ils ont mangé la plante de jouvence, ils ont piqué la plante à Gilgamesh. Et donc Gilgamesh retourne à Uruk complètement dépité, à la fois dépité et ayant quand même gagné en sagesse, comprenant que la vie éternelle n'est pas pour lui. Et le récit se termine là et revient sur les murs d'Uruk, et donc on comprend que Gilgamesh a atteint finalement une autre forme d'immortalité en étant un bon roi d'Uruk, en étant un roi sage et en ayant construit les murailles, ce qui dans le Proche-Orient était quand même l'œuvre du roi. Le roi accédait à l'immortalité en faisant de grands travaux de construction. Et donc il y a beaucoup de rois qui sont restés immortels parce que comme les gens construisaient aussi en terre crue, les murs d'Uruk ils s'effondraient souvent, il fallait tout le temps les reconstruire. Enfin, tous les murs de toutes les villes, tous les palais, tous les temples s'effondraient tout le temps, il fallait tout le temps les reconstruire. Et on a retrouvé comme ça un tas de noms de rois qui ont laissé leur nom dans les fondations de ce qu'ils ont fait sans cesse reconstruire. Et puis, alors là, j'ai la 11e tablette, et puis après, il y a une 12e tablette qui a, je dirais, plus de rapport avec les précédentes, mais la 12e tablette de l'épopée, c'est la traduction en acadien, Jurisis sumérien de Gilgamesh, Enkidu et le monde des morts, donc Enkidu est chez les morts, Gilgamesh le rappelle, etc. J'ai encore
10 minutes.
10 minutes, sans problème. Alors, sur la structure du récit, si vous voulez, même s'il reste quand même des petits trous, on voit bien comment ça s'articule. Il y a vraiment deux parties nettes hein, dans cette histoire. Une partie qui est répartie sur 6 tablettes, 5 tablettes. Hein. Les 6 premières tablettes, c'est vraiment les exploits des héros, la recherche de la gloire, la recherche des exploits, les exploits guerriers. Dans la version la plus ancienne en acadien, par exemple, Gilgamesh dit carrément je fais des exploits parce que je veux établir ma renommée, je veux laisser un nom dans l'histoire. Apparemment, il y est bien parvenu. Donc c'est vraiment l'aspect héroïque, on combat des monstres, on se lance des défis, en fait. On combat des monstres qui sont liés au monde divin, bien sûr. Et puis, la nature même du héros Gilgamesh est précisée dès le départ. On dit toujours qu'il est deux tiers divin pardon, et un tiers humain. Et un collègue m'a fait remarquer que c'était une aberration biologique, j'avoue que j'avais jamais remarqué, parce qu'on peut être un demi, un demi, on peut être un quart, trois quarts, mais deux tiers, un tiers, on ne sait pas comment il a fait. En tout cas, bon, c'est vraiment la nature du héros qui est comme ça définie. Alors dans l'histoire, on explique aussi que sa maman est une déesse, mais son père est un mortel, donc c'est l'hérédité de la maman qui a dû peser plus lourd. Bon. Et après tous ces exploits, il y a une espèce de crescendo, Gilgamesh et Enkidu viennent finalement à défier les divinités, c'est-à-dire non seulement ils ont tué Umbaba, ce qui n'était déjà pas très bien, mais ils défient Ishtar, ils tuent le taureau du ciel qui est envoyé directement par Ishtar, donc ils sont vraiment dans la démesure, hein. Bon, c'est un peu la même idée dans le monde grec, hein, où les héros commettent toujours un acte, un acte de trop, un acte qui est hors norme pour les mortels et qui leur vaut l'inimitié des dieux. Et puis les 5 tablettes suivantes, ça s'est complètement retourné. Là, il n'y a plus de combat héroïque, mais il y a un problème qui est plus crucial, c'est que faire face à la mort, parce que là, on a un adversaire qu'on ne peut pas combattre, et l'attitude de Gilgamesh, c'est moins une attitude positive, c'est moins un combat qu'une espèce de fuite devant la mort, qui défie cette fois finalement non plus les dieux, mais la nature humaine. La nature, c'est de mourir. Comment est-ce que je peux faire pour échapper à ce destin ? Et c'est sûrement, je pense, cet aspect aussi du personnage qui a fait de lui un des héros les plus célèbres du Proche-Orient, parce que aussi le plus humain. Et dans la version du premier millénaire, aussi une boucle qui se boucle, on commence avec les murs d'Uruk, et puis on termine sur les murs d'Uruk comme la seule forme d'immortalité que le héros a enfin trouvée. Et donc à la fin, on a l'impression qu'il n'a pas échappé à la mort du tout, mais qu'il a échappé à la peur de la mort et qu'il a en tout cas fini par accepter sa condition humaine ou à un tiers humaine. Quelques petits mots aussi sur la redécouverte de l'épopée de Gilgamesh, parce que le fantastique se loge aussi dans la redécouverte de l'épopée. En fait, bon, tous ces textes du Proche-Orient ancien, ils ont été perdus, oubliés, il n'y a pas eu vraiment de transmission, et ils ont été redécouverts à partir du moment où il y a eu au Proche-Orient des fouilles françaises, anglaises, etc. Et ce sont les premiers textes qui ont été trouvés, c'est les Anglais qui les ont trouvés dans les ruines de Ninive, les premiers textes concernant Gilgamesh. Alors, les premiers textes qu'on a trouvés, personne ne savait les déchiffrer hein, au milieu du 19e siècle. Et les Anglais ont envoyé ça par caisse entière au British Museum, et puis en même temps qu'ils les trouvaient, bon, le déchiffrement commençait à se faire. Et puis en 1872, George Smith, qui était un jeune homme qui triait toutes les caisses qui arrivaient au British Museum, et qui, paraît-il, avait appris à lire tout seul l'acadien, alors là, j'en reviens pas, il faudrait un jour que je fasse quelque chose sur la biographie de George Smith, parce que ça m'a toujours paru bizarre, ce gars qui apprend tout seul à lire l'acadien. Enfin bref, en tout cas, il lisait, il comprenait ce qu'il lisait et ce qu'il déballait des caisses. Et il est tombé, encore une fois, sur le récit du déluge, c'est-à-dire qu'il est tombé sur une tablette qui raconte l'histoire d'un monsieur qui est dans un bateau, et le bateau flotte, 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 parce qu'il y a beaucoup d'eau et qu'il a plu pendant des jours et des jours, et le monsieur lâche un oiseau pour savoir si la terre est sèche quelque part, l'oiseau revient, il en lâche un deuxième, etc. Et donc là, George Smith s'est pris la tête à deux mains en disant « mais qu'est-ce que je suis en train de lire ?» puisque c'est exactement l'histoire qu'il y a dans la Bible, hein, dans le livre de la Genèse, avec le récit du déluge. Et donc il a fait très vite une conférence là-dessus qui a fait sensation, encore une fois, fin 19e siècle, on pense que la Bible est le livre saint, sans parallèle, enfin c'est un météore qui tombe, j'allais dire, qui tombe droit des mains de Dieu ou quasiment, et ce qui est dans la Bible, on ne peut pas le retrouver ailleurs. Et là on retrouve la même histoire, mais dans un contexte culturel qui est complètement différent, qui est polythéiste. Donc est-ce que la Bible a copié, ou est-ce qu'il y a eu deux récits, ou est-ce que la Bible a emprunté, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça suscite beaucoup d'interrogations et de débats théologiques animés. Et quand George Smith fait sa conférence, qui est un gros retentissement, le journal Daily Telegraph lui propose beaucoup d'argent pour aller à Ninive et trouver la suite. Eh bien, il est allé à Ninive, il a trouvé la suite. Ça n'arrive jamais, des trucs pareils. c'est arrivé. Il a trouvé la suite de l'épopée de Gilgamesh. Et ensuite, il est mort. Je ne sais pas ce qu'il a attrapé comme maladie en Irak, fin 19e siècle. En fait, il est mort au champ d'honneur de la science. Alors ensuite, il y a eu de plus en plus de manuscrits trouvés sur toutes sortes de, enfin, sur beaucoup de sites, beaucoup de manuscrits d'époques différentes, comme je vous le disais. Et dans les années 1930, il y a eu une première publication de tous ces manuscrits. Et quand je faisais mes études, ce qui était le plus complet, c'était encore ce gros bouquin de 1930 avec tous les manuscrits des différentes époques. Et là, il y a quelques années, il y a un autre collègue aussi anglais, Andrew George, qui a publié, mais alors là, le prix lui aussi est fantastique, un bouquin énorme où il a repris tous les manuscrits des tablettes de Ninive, mais tous les manuscrits plus anciens, les textes en sumérien. Enfin, il a essayé de faire l'inventaire de tous les manuscrits qu'il a pu trouver dans tous les musées du monde. Donc, travail fantastique.
Il nous reste 5 minutes. Est-ce que vous voulez faire la question ou un...
Oui, je vais arrêter là.
D'accord.
Parce que sinon, vous ne pourrez pas parler. Pardon.
Est-ce que quelqu'un a une petite question sur Gilgamesh ? Allez-y, c'est l'occasion.
Moi, je voudrais vous dire que depuis quelques années, l'épopée de Gilgamesh est beaucoup mieux connue parce qu'elle est intégrée dans le programme scolaire, en particulier pour la 6e.
Oui, c'est très bien.
Du coup, il y a une dizaine d'éditions qui sont sorties pour les scolaires. Ben alors, on a comblé les trous.
Ben, bien sûr. Alors c'est quelque chose, j'allais dire, qui marche très bien. Alors d'abord, je suis très contente que la Mésopotamie soit au programme de 6e. Et vous savez qu'il y a une réforme de la formation des enseignants, bon, et qu'on a des étudiants qui doivent faire un master enseignement, on est très contents. J'envisage de donner comme sujet de master à des étudiants, non pas l'épopée de Gilgamesh, parce que bon, l'herbe ne repousse plus, je veux dire, ça a été travaillé, retravaillé, mais de faire un travail sur les manuels de 6e, comment l'histoire de la Mésopotamie est enseignée en 6e, éventuellement de faire le manuel idéal, enfin, il y a plein de choses à faire. Mais je trouve que c'est une très très bonne chose que ce soit enseigné en 6e. Et Gilgamesh marche bien auprès des enfants. J'ai une amie qui, pendant un moment, a travaillé au Louvre et qui faisait les visites pour les enfants au Louvre. Et elle avait fait une sorte de petit théâtre pour les enfants. Enfin, elle demandait aux enfants de se déguiser, de raconter Gilgamesh, de jouer Gilgamesh. Alors, les petites filles faisaient Ishtar avec un joli chapeau à cornes, parce que les dieux ont un chapeau à cornes. Et puis les garçons des Gilgamesh avec une perruque et puis une barbe, etc.
C'était très bien.
Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Moi, j'ai vu une représentation théâtrale qui était très, 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 très belle. C'est vraiment une œuvre qui inspire les créateurs. Et on comprend pourquoi.
Il y en avait une dans les années 70 en France, mais c'était en arabe.
C'est très possible. Alors, en arabe, il y a Abed Azriye, qui est un poète arabe, qui a fait une récitation du texte en arabe, et qui est musicien aussi. Et donc, il fait la récitation en arabe en s'accompagnant d'instruments traditionnels arabes.
Est-ce qu'il y a une autre question, Alexis ?
Bien fort pour la ville, ou alors cette réflexion sur la mort.
Pardon ?
L'intérêt de cette introduction dans les nouveaux programmes, c'est le fait de l'écriture,
alors,
la lettre, sur la construction de la ville.
Alors, dans les nouveaux programmes, pour dire la trop de vérité, j'ai cru comprendre que c'était un accident, c'est-à-dire que les inspecteurs qui ont fait les programmes, s'il y a des inspecteurs ici, ils me contrediront si je dis des horreurs, c'était pour qu'il n'y ait pas dans les programmes scolaires que l'Égypte, parce que bon, l'Égypte, ça marche toujours très bien, et donc les enseignants ont choix entre l'Égypte et la Mésopotamie. Simplement, les gens sont partis de l'Égypte en disant, ben, en Égypte, on va mettre au programme le troisième millénaire, parce que le troisième millénaire, c'est les grandes pyramides. Et alors, ils se sont dit, ben, pour faire symétrique, on va mettre le troisième millénaire en Mésopotamie. Sauf que moi, s'il y a une époque que j'ai du mal à faire étudier, parce que c'est ce qui est vraiment dur, c'est le troisième millénaire. Et pour des collègues qui enseignent dans le secondaire, pour faire comprendre à des enfants de 6e ce que c'est le troisième millénaire en Mésopotamie, c'est quand même coton, c'est pas rigolo. Donc ils leur racontent souvent l'épopée de Gilgamesh, puisqu'on dit que si jamais Gilgamesh a existé, c'était au troisième millénaire. Bon, ça permet de parler de la ville d'Uruk, ça permet de parler de la royauté aussi, des pouvoirs du roi, qui est le roi guerrier, qui est le roi bâtisseur. Voilà, donc après, ils peuvent, j'allais dire, un petit peu faire ce qu'ils veulent. Bon, sur l'écriture aussi, mais je dirais qu'avoir mis le troisième millénaire, c'est pas une très bonne idée, puisque l'invention de l'écriture, c'est avant, et le moment où on a le plus de textes, c'est après. L'invention de l'écriture, quatrième millénaire. Les textes, je dirais, là où on a le plus de textes différents, c'est deuxième millénaire, on a beaucoup d'archives privées, donc je plains mes collègues du secondaire qui doivent m'armer sur le troisième millénaire, mais je pense que Gilgamesh, c'est un bon moyen d'entrer dedans, et que de toute façon, pour les petites sixièmes, c'est pas, je veux dire, c'est pas trop grave si on met Gilgamesh au troisième millénaire ou ailleurs. Je pense que ce qui est important, c'est qu'ils retiennent. Qui retiennent où est la Mésopotamie, qui retiennent des choses, que les gens écrivaient sur argile, qui retiennent un peu de mythologie.
Ça se voit intégré dans les récits fondateurs, c'est-à-dire aussi bien les récits bibliques, l'Iliade, l'Odyssée.
Bon, je crois que ça a sa place à côté de l'Iliade et de l'Odyssée. Et que par rapport à la Bible, bon, bah, y a évidemment les connexions évidentes avec le récit du déluge, mais aussi, je dirais, d'un point de vue j'allais dire scientifique. Pour nous, c'est extrêmement intéressant d'avoir ce texte qui est écrit sur 1000 ans avec des jalons pendant 1000 ans. Et comment la Bible a-t-elle été écrite? Ben, pour la Bible, le problème, c'est qu'on a que les derniers manuscrits. On a les manuscrits de Qumran, les manuscrits de la mer morte, mais avant, il y a combien de siècles, avec des jalons qu'on n'a pas retrouvés, parce que les gens qui ont écrit la Bible, ils n'écrivaient pas sur l'argile. Mais il y a aussi sûrement pour la Bible une préhistoire du texte qu'on n'a pas. Alors qu'en Mésopotamie, le fait que les gens écrivaient sur argile fait qu'on a, on a toute l'histoire du texte qui se déroule.
Mais vous croyez qu'on peut encore trouver des tablettes aujourd'hui, après tous les ravages des guerres en
Irak? Ah ben, j'allais dire que très malheureusement, les ravages des guerres ont provoqué la découverte de tablettes, puisqu'il y a plein de fouilles clandestines. Et que ces dernières années, il y a des collections de milliers de tablettes qui se sont constituées, voilà, alors qui sont quelquefois reblanchies quand ils sont offerts à des universités ou à des musées, qui sont quelquefois des collections privées, mais il y a des collections privées qui ont rassemblé des milliers de tablettes avec des bouts de, je crois qu'il y a des bouts de Gilgamesh. Andrew George a dû publier récemment un bout de Gilgamesh qui était dans une collection privée, donc je pense qu'on en trouvera encore, surtout que dans le sud de l'Irak, ce qui a été défoncé apparemment, c'est quand même les niveaux sumériens, les textes qu'on va sortir, c'est le troisième millénaire. Bon, peut-être qu'on trouvera des choses extraordinaires, mais si on les trouve maintenant dans des fouilles clandestines, c'est dramatique parce qu'on n'aura pas le contexte.
On va s'arrêter là. La prochaine conférence vient d'arriver. Merci à tous d'être venus et puis merci à Roger Pierre. Alors, que vous pouvez continuer à avoir l'applaudir. Je viens discuter avec elle.